Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Le FMI livre sa potion à la France pour faire baisser le déficit. Le FMI doute très clairement que l'on parvienne au fameux 2,9% en 2027. Mais en tout cas, il prévient Paris. Vous ne pouvez plus tirer sur la corde fiscale pour y parvenir compte tenu du poids déjà trop lourd de vos impôts. Or, depuis quelques jours, il n'y a que des pistes plus ou moins fiscales ou qui y ressemblent pour réussir à maîtriser notre déficit. La dernière en date étant la proposition d'une année blanche 2025 du président du groupe Renaissance qui supposerait de ne pas indexer les prestations sociales, de ne pas indexer les pensions de retraite, de ne pas indexer le barème de l'impôt sur le revenu. Et dans la même logique, l'événement économique de la semaine a bien sûr été les premiers arbitrages de la réforme de l'assurance chômage. Emmanuel Macron sera dimanche en Allemagne, 3 jours de visite d'État. Alors on va parler probablement de l'union des marchés de capitaux, probablement aussi des perspectives hypothétique de fusion transfrontalière entre des établissements bancaires. Et hier, Emmanuel Macron, chez nos confrères de CNBC, a jugé utile de modifier les missions de la BCE, de coller davantage à ce que fait la réserve fédérale américaine, en ajoutant à l'objectif de stabilité des prix un objectif de création d'emplois. Dans cette émission, on réagira aussi au psychodrame sur Total Energy. Alors, Total Energy ira bien aux États-Unis, selon les propos de son président Patrick Pouyanné dans le Figaro, avec une action à Wall Street et pas un certificat de dépôt comme aujourd'hui. Mais il restera coté à Paris, indique-t-il. Et il n'a jamais été question que Total quitte la France. Bonjour Camille Landais.
Bonjour.
Bienvenue plus près de micro, Camille, président du Conseil d'analyse économique, Ludovic Subran, bonjour.
Bonjour.
Chef économiste d'Allianz, c'est Jean-Marc Vittori, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Éditorialiste aux Échos. Le CAE travaille sur quoi en ce moment, Camille Landais?
Voilà, on travaille sur tellement de choses. On travaille sur la trajectoire des finances publiques,
ah, bah,
on parlait. On travaille sur beaucoup de sujets liés à la transition écologique. On travaille aussi sur les questions d'union des marchés de capitaux avec nos confrères allemands.
Donc le programme du jour est taillé sur mesure.
Incroyable.
Il est taillé sur mesure. J'avais été séduit par la note que vous aviez publiée sur le diagnostic de performance énergétique. Je ne vais pas refaire l'histoire ici. C'est une façon de regarder le sujet tout à fait inattendue. Mais allons-y. Je donne les éléments d'information basiques et je vous fais réagir Camille Landais. Le FMI a donc publié son rapport annuel sur les finances publiques françaises à 8 jours du verdict de Standard & Poor's sur la croissance. Il prévoit 0,8 cette année, là où Bercy dit 1. Et 1,3 en 2025, là où Bercy dit 1,4. Sur le déficit 2027, il dit 4,5, là où Bercy dit 2,9. Et pour cette année, 5,3, là où Bercy dit 5,1. Et donc il émet des cibles, enfin des solutions pour essayer d'accélérer la baisse du déficit. Couper des aides aux entreprises, tailler des niches fiscales, c'est pas très très loin d'une hausse d'impôts. Baisser les dépenses des collectivités, baisser les effectifs de la fonction publique. Et il est formel, si vous voulez de toute façon y parvenir, vous ne pouvez plus utiliser la corde fiscale, vos impôts sont déjà trop élevés. Que vous inspire cette note, Camille?
Je pense que le premier point qu'il faut voir, c'est d'où vient le FMI. Et le FMI, comme d'autres grandes institutions économiques, est un peu curieux de bien comprendre les hypothèses qui se cachent derrière le fameux plan de stabilité, le PSTAB.
Le PSTAB 2027.
Voilà, qui fixe une trajectoire pour les finances publiques. Comme tout plan de stabilité, on est obligé d'y faire un certain nombre d'hypothèses. Et il y a, je dirais, 2 ou 3 hypothèses qui sont assez optimistes, on va pas se mentir.
Dans le programme de stabilité de
la France. Dans le programme de stabilité et qui joue du coup énormément sur notre capacité à faire une consolidation qui n'envoie pas la France en récession. C'est quoi ces hypothèses? La première, c'est qu'on part avec ce que les économistes appellent un output gap, c'est-à-dire l'idée qu'aujourd'hui on serait en retard par rapport à notre croissance potentielle. Et de manière assez naturelle, quand il y a un output gap comme ça, la croissance va avoir tendance à être forte pour rattraper la croissance potentielle. Okay ? Et donc ça veut dire que on a, à travers cette fermeture de l'output gap, déjà un gain de croissance un peu acquis à travers cette hypothèse. Les deux autres hypothèses qui sont un peu clés, c'est celle sur... ce qu'on appelle les multiplicateurs, c'est-à-dire quand vous allez faire changer la dépense publique, de comment ça va affecter l'activité. Ok, c'est vrai que les hypothèses qui sont prises là-dessus sont quand même assez conservatrices du point de vue de la littérature actuelle. C'est-à-dire que on va baisser énormément la dépense publique.
Oui, 20 milliards plus 20 milliards,
et qu'on va avoir un effet sur la croissance qui est relativement limité par rapport à ce que la plupart des économistes auraient assumé. Donc tout ça, tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que il y a un tout petit danger à vouloir être trop optimiste sur un certain nombre d'hypothèses qui permettent évidemment d'afficher qu'on est capable de faire une consolidation qui est assez dure, mais qui devrait pas nous envoyer dans le décor, à la fois du point de vue de la croissance du PIB, et donc du coup du point de vue de la stabilisation de notre dette dans le PIB, et aussi du coup du point de vue de l'acceptabilité sociale de ces mesures. Et voilà, faut garder en tête que c'est effectivement trop optimiste et qu'on se retrouve dans un cas qui est moins bon que celui-là, on peut du coup douter de la capacité à avoir une consolidation aussi rapide. Et donc voilà, je pense que c'est ça que dit le FMI d'une certaine manière. Il dit, vous êtes peut-être un tout petit peu optimiste. Et donc,
il y a un peu comme le Haut Conseil des Finances Publiques.
C'est exactement le même message.
C'est le même message, crédibilité,
croissance,
cohérence,
potentielle et élasticité, sur les deux points clés qu'a évoqué Camille, donc sur la croissance potentielle de la France dans les prochaines années et sur l'élasticité, c'est-à-dire l'impact des mesures de consolidation budgétaire sur la croissance. C'était exactement les deux remarques principales que faisait le Conseil de la stabilité, le Conseil des finances publiques, les prévisions.
On peut difficilement imaginer qu'avec des montants inédits de 20 milliards, plus 20 milliards, et d'ailleurs si on suit les recommandations de la Cour des comptes, ce seront les mêmes 20 milliards en 2027, on peut difficilement imaginer qu'on n'aura pas, à propos justement des effets multiplicateurs, qu'on n'aura pas un effet récessif. Les montants sont... On n'a pas d'effet récessif à 2, 3, 4 milliards, mais à 20, plus 20, plus 20, plus 20. Même lecture.
Nous, on n'a pas les mêmes prévisions de croissance et les mêmes prévisions de déficit public, oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire que, en effet, trois années consécutives où on baisse de 1 point chaque année le déficit, d'un point de PIB chaque année le déficit, si ça ne coûte pas au moins un demi, voire trois quarts de point de croissance chaque année, c'est qu'il y a un problème. Et donc, vu ce qu'on a comme croissance dans le tuyau dans la France, en France, ça ne fait pas beaucoup de croissance qui reste. Donc, c'est vrai que ça ne tient pas, mais je veux dire, c'est un moment très politique. Le FMI sort maintenant, il y a S&P, on a eu une autre agence, on a ce tunnel là de 3 mois compliqué avec la Commission européenne qui va faire des analyses de trajectoire de dette. Vous savez, on envoie notre plan, il nous renvoie quelque chose. On a la liste de déficits excessifs qui nous pend au nez pendant l'été. Tout ça pendant un moment un peu Commission Frankenstein, puisqu'ils sont un peu en campagne. Non, mais c'est vrai. C'est hyper important de comprendre ça, parce que on peut critiquer le gouvernement pour alors la Cour dit pas l'insincérité cette fois-ci.
Ils sont pas allés jusque-là.
C'est vrai que ça sent quand même les calculs de comptable un peu mal foutus. C'est vrai que c'est un moment compliqué, mais pour beaucoup d'États. Enfin, moi, j'étais en Espagne hier, j'étais en Italie la semaine d'avant. Ça sent quand même très mauvais partout. En Italie, elle a quand même utilisé 100 milliards pour faire de l'évasion fiscale sur la rénovation des bâtiments, qui n'est pas de la rénovation. Le Superbono, c'est quand même le plus gros contributeur au PIB italien depuis maintenant presque 3 trimestres.
Donc, c'est quoi le Superbono ? Qu'est-ce que
c'est ? C'est 100 milliards qui sont censés être dépensés. C'est de l'argent européen d'ailleurs.
Oui, c'est de l'argent européen. Ouais,
qui sont censés être dépensés pour de la rénovation énergétique des bâtiments. Par que, en fait, personne va vérifier que c'est rénové. Et donc, ça a été utilisé, en gros, pour faire de la construction et pour défiscaliser des travaux. En gros, c'est ça. Oui. 100 milliards. C'est 100 milliards, c'est beaucoup d'argent. Ils ont plus de 7 points de déficit public. Donc, je veux dire, la situation de la France et la trajectoire de finances publiques n'est pas jojo. Mais les autres pays, c'est pas beaucoup mieux. En Espagne, par exemple, ils ont eu énormément de recettes du PIB et des cotisations sociales. Donc, du coup, ils ont que 3,2% de déficit. Mais en fait, la question, c'est la suite. c'est comment ils arrivent en fait à rester dans cet ordre de grandeur là quand eux aussi ils ont une pression sur les dépenses qui sont compliquées, parce que pour le coup ils ont beaucoup plus plus baissé leurs dépenses depuis 10 ans. Donc juste pour les solutions du FMI, l'accord fiscal, les histoires de désindexation de LR, etc., c'est le concours Lépine, c'est la France, donc chacun y va avec sa petite notion de fiscalité un peu sur le coin de table. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce qu'il faudrait en tous les cas aujourd'hui, c'est au-delà du PESTAB, dont on peut critiquer les hypothèses.
Programme de stabilité.
Ça serait intéressant d'avoir en fait un plan ou une feuille de route, parce que là, plus le gouvernement
le FMI
attend,
dit c'est pas renseigné.
Exactement.
D'économie.
Et donc en fait, ce qui manque,
exactement, moi, encore comme le conseil,
ce qui manque, alors est-ce que c'est peut-être une temporalité électorale, mais ce qui manque là pour éviter le concours Lépine de tous les députés en manque de visibilité sur des solutions plus débiles les unes que les autres, hein, parce que là vous citez celle de la désindexation, c'est quand même profondément débile. C'est-à-dire que les gens qui ont des minimums sociaux, vous voulez ne pas les revaloriser sur l'inflation, c'est-à-dire vous créez de la pauvreté, alors qu'à côté vous avez quand même de l'argent qui a été donné à des entreprises qui n'en ont plus besoin. Je parle notamment des PGE qui sont pas encore totalement remboursés, qui pourraient l'être. Donc il y a quand même un côté très dogmatique aux solutions. Moi, ce que je pense qui pourrait
occuper
l'espace,
c'est pas des solutions. Merci, attention. Hein, c'est des solutions politiques.
Mon point pour éviter que ce soit la foire d'empoigne, c'est qu'on ait justement un atterrissage de ce PESTAB. C'est-à-dire que là, on a une petite fenêtre pour essayer de proposer, le président ou le gouvernement ou le ministre des Finances, etc., pourrait proposer des choses qui sont un peu cadrantes, comme il a fait avant, hein, en disant « je n'augmenterai pas les impôts ». C'est très cadrant, et donc du coup, on regardait ce qui pouvait être fait après. Ouais. Là, je pense qu'on a besoin de ça, là, maintenant, pour éviter que ce soit politisé.
Mais ils ne savent absolument pas où on va...
Ils sont bien meilleurs que ce qu'on croit.
Et on sort un décret à 10 milliards, et après, on nous sort 10 milliards de plus, quoi, même pas un mois plus tard, à peine l'hiver terminé. Tout ça, c'est pas correctement renseigné. On va aller chercher sur les 10 milliards, 5 milliards de crédits de réserve. Vous savez, l'argent qui est de côté en cas de coup dur. Mais il y avait déjà les crédits de réserve qui étaient gelés dans les 10 premiers milliards. Il y a un moment.
Je peux vous dire par exemple que la trésorerie des agences publiques, c'est au moins 15 milliards. Et ça, c'est documenté, c'est su.
La trésorerie des agences publiques.
Ouais. C'est-à-dire que les trésors, comme toutes les entreprises françaises, les agences publiques ont aussi accumulé de la trésorerie parce qu'elles ont eu beaucoup moins de coûts en 2022 et 2021, etc. Et donc, il y a peut-être moyen de baisser ces niveaux de trésorerie. Parce que je ne sais pas si Pôle emploi, ou je sais pas comment ça s'appelle maintenant, France Travail, a besoin d'avoir, je ne sais plus, 8 milliards de trésorerie.
Ils ont 8 milliards de trésors.
Ouais, je ne sais pas s'ils en ont besoin.
En tout cas, si c'est possible en 2024, comme ici, il faut réitérer l'histoire en 25, en 26, en 27, il y a un moment, les trésoreries, elles seront exemptes.
En fait, on découvre un peu le poteau rose un peu tard.
Jean-Marc et Camille Landais, parce que là,
juste,
le truc
juste, il y a un vrai choix à faire, hein, qui est-ce qu'on va plutôt du côté de la dépense publique ou est-ce qu'on va plutôt du côté de l'impôt? Alors, on a tous en tête ce qui s'est passé il y a un peu plus de 10 ans, hein, pendant la crise de la zone euro. À la sortie de la crise de la zone euro, les pays européens ont voulu rétablir leurs finances publiques trop vite, hein, je crois que maintenant il y a un accord général là-dessus, et ils l'ont fait en particulier en France massivement par la hausse d'impôts. Le coût en termes de croissance a été extrêmement élevé. Et si vous faites de la comparaison Europe-États-Unis, vous voyez bien qu'il y a une vraie différence et qui vient en partie de ça. Et donc la question se pose à nouveau, hausse d'impôts, baisse de dépenses. Emmanuel Macron a fermé la porte aux hausses d'impôts a priori, mais enfin quand vous regardez, il y a plein de petits impôts qui sont créés, qui sont augmentés.
Il y a une ligne de crête un peu space parfois.
Le FMI ne ferme pas la porte aux hausses d'impôts. Ils disent, les experts du FMI disent, ce qui est vrai, que la France a des prélèvements obligatoires très élevés. Hein, ça, là aussi, je crois que personne ne conteste ce point. Et que donc il faudrait peut-être plutôt agir du côté de la dépense que du côté des impôts. Donc cette question-là, elle n'est pas réglée, elle est importante, et je pense que les économistes ont aussi leur rôle à jouer dans ce débat, parce que il y a eu des polémiques et des débats, je trouve, assez intéressants et assez profonds sur qu'est-ce qui est le plus efficace, notamment en termes de croissance. Est-ce que c'est baisser les dépenses, est-ce que c'est augmenter les impôts? Le FMI avait plutôt été du côté il faut baisser les dépenses, et je trouve que ça se voit dans leur rapport, mais il y a encore des choses à éclaircir avant de trancher ce choix qui est extrêmement important, à la fois économiquement et politiquement.
Mais cette question que vous posez, est-ce qu'il faut jouer sur dépenses ou recettes, elle ne se pose pas dans les mêmes termes en fonction des pays. Ça dépend du niveau de prélèvement obligatoire. Quand vous êtes aux États-Unis, vous avez une élasticité fiscale. J'avance, Camille Landais, sur parce que tout ça est un peu lié. Ça a été la semaine de la réforme de l'assurance chômage. Elle est très, très critiquée par la CGT, qui considère que c'est la plus dure réforme jamais infligée sur l'assurance chômage. Les arguments s'entendent pour dire que c'était pas le moment, parce que le taux de chômage est plutôt orienté à la hausse, que l'UNEDIC est en excédent. Selon vous, est-ce qu'elle est justifiée et utile, cette réforme de l'assurance chômage? Parce que ça fait partie des réformes structurelles qui sont visibles depuis l'extérieur, notamment depuis chez Standard & Poor's, pour donner une impression, ou en tout cas une image de sérieux.
Bon, alors, ça nous ramène à la question d'effectivement, si on veut consolider nos finances publiques, quel type de réformes structurelles on fait? Et c'est vrai que, naturellement, on peut se poser la question d'un certain nombre de politiques, de l'emploi, ou les retraites, le système de retraite, enfin, toutes les...
Retraites, on vient de le faire.
Oui, enfin, bon, on peut reposer toutes les questions...
Assurance chômage aussi, hein.
Oui, c'est pas... Oui, c'est vrai. Assurance chômage aussi, oui. Ouais.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça paraît pas absurde en soi de poser la question de quelle réforme on peut faire qui maximise nos effets sur l'emploi, sur les recettes fiscales potentielles, ce genre de choses. Ceci dit, plusieurs points sur cette réforme de l'assurance chômage. Je pense que oui, effectivement, il n'y a aucun consensus parmi les économistes pour dire que aujourd'hui, il y avait une urgence absolue pour agir spécifiquement sur l'assurance chômage. On a fait déjà beaucoup de réformes, jusqu'à très récemment, et on a éliminé la plupart des dispositions qui, dans notre système d'assurance chômage, nous rendaient particulièrement différents des autres ou étaient assez, de manière évidente, probablement source de peu de retour à l'emploi, ce genre de choses.
On est quand même encore un peu différent de la moyenne des pays de l'OCDE. Mais bon, on a effectivement normalisé certaines choses. Et donc,
maintenant, l'autre point, c'est que si on veut, du coup, faire cette réforme de l'assurance chômage, avec en tête l'idée qu'on veut maximiser les effets sur l'emploi, il faut se poser la question de où sont les paramètres qui vont avoir les effets les plus importants sur l'emploi.
On le sait, hein.
C'est
la durée d'indemnisation qui a le plus d'effet sur le retour à l'emploi, plus que les conditions d'accès.
Alors oui, plus que les conditions d'accès, ça on le sait. Donc c'est déjà. Mais le problème, c'est que les conditions d'accès, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup dans le très court terme, mécaniquement très vite. Donc
Quand
je pense que le gros danger de cette réforme, c'est de vouloir en faire une réforme d'économie sur le dos de populations qui ont pas forcément voix au chapitre parce que dans l'économie politique de la Macronie, c'est pas celles qui ont le plus de poids. Et avec pour danger, le fait que, mine de rien, c'est aussi des populations qui, ça nous ramène à cette question des multiplicateurs, c'est des populations, les jeunes, les gens qui ont peu d'accès au marché de l'emploi et qui, du coup, vont pas avoir les durées d'éligibilité nécessaires. Ce sont des gens qui, en général, ont des propensions marginales à consommer très élevées. Quand vous leur prenez des allocations chômage, ça joue énormément sur un niveau de consommation. Donc voilà. Il y a un certain nombre de choses qui, dans cette réforme, ne sont pas complètement...
Vous n'êtes pas totalement convaincu que c'était le moment et qu'il fallait...
Oui, en tous les cas, que si on affiche des objectifs qui sont très clairement on veut maximiser l'emploi, ce n'est pas forcément les mesures que j'aurais choisies.
Bon, objectivement, maintenant, le gouvernement n'est plus tellement si affirmatif quand on lui dit... J'avais eu cet échange avec Gabriel Attal. Il m'avait posé la question, mais vous savez pourquoi on fait cette réforme? Comme je savais qu'il allait me dire retour à l'emploi, moi je lui ai dit faire des économies. Bon, maintenant, objectivement, les deux lièvres sont clairement là, il n'y a pas de problème. Ludovic Subran
Moi je trouve que réformer la réforme...
Réformer la réforme.
Du retournement de cycle, c'est débile, voilà. Ouais. C'était pas l'esprit de la réforme, je crois que Philippe Aguillon, qui a quand même un peu... Enfin, Alexandra Roulet, des gens qui savent un truc ou deux là-dessus... avait conseillé cette réforme. Elle avait cette idée, c'était justement en période d'expansion de cycle de pas indemniser de trop. Ok. Maintenant, on est plutôt avec un chômage qui rebique. C'est pas le moment de la rechanger. En termes de prévisibilité, Camille parlait de la propension marginale à consommer. Moi, je suis très inquiet de la faculté d'épargne de ces gens-là et de l'autre côté de l'épargne de précaution que ça peut générer chez des gens qui sont peut-être dans une situation d'instabilité d'emploi. Donc, je trouve que, pour des pouillèmes en plus.
C'est ça, qu'est-ce que vous appelez des pouillèmes?
C'est pas ça qui
va
faire.
Quand on passe de 6 à 8 mois sur 20 mois.
Oui, mais c'est pas ça qui va faire baisser le chômage à 5%.
Non.
Parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même ça. le but, hein, oui, c'est on est à 7, ce qui est génial, franchement. Alors ça, on peut dire
on est au-dessus de 7 là. Hein.
On est à 7,2 ou 7,3, ce qui est ok, mais on veut aller à 5. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on va aller à 5. Je pense qu'il y a plutôt un choc de formation, qualification, intermédiation.
Ouais,
il y a un truc qui s'appelle les politiques actives de l'emploi, ouais. Qui, à mon avis, alors pour le coup, le coût efficacité est plus compliqué, mais je m'inquiète plus de ça que de cette réforme-là.
Pour éviter de se trouver complètement en contradiction avec la parole politique, il a été indiqué par Catherine Vautrin que la fameuse durée d'indemnisation, qui est quand même a priori ce qui est le plus efficace en termes de retour à l'emploi, ne serait modifiée que si on arrivait à 6,5 de chômage. Voilà.
Ça me rappelle.
Ça vous rappelle quoi?
Bah 2017.
Quoi 2017?
L'inflexion de la courbe.
Ah oui. Ça, mais ce qui est dingue d'ailleurs, c'est que François Hollande, quand il arrive à la fin de son mandat,
Godart, on appelle ça.
À la fin de son mandat, la courbe s'était inversée, mais pas de manière assez puissante pour que ce soit visible et palpable par tout le monde.
C'est très compréhensible.
Bon, Jean-Marc, un mot sur cette réforme de l'assurance chômage, je crois que
rien de plus. Dans l'absolu, il est légitime de se poser ces questions, surtout quand on fait, y compris tout de même quand on fait des comparaisons internationales sur les durées d'indemnisation, les conditions, etc. Dans l'absolu, c'est des questions légitimes, mais on ne vit pas dans l'absolu, on vit dans le relatif. On a fait une réforme il y a un an.
La dernière, ça doit être bien.
On disait exactement l'inverse. On disait, quand le chômage se retourne, il faut plutôt être plus coulant. Et là, on dit, on va resserrer maintenant, alors que c'est le chômage qui remonte. Donc, dans l'absolu, bonne idée. En relatif, et quand on regarde dans le cycle politique, ça paraît délirant.
Parce que Camille a raison. Hein, l'UNEDIC a publié cette semaine une étude d'impact sans connaître vraiment encore les paramètres qui allaient évoluer. Et ils indiquent que c'est a priori les moins de 25 ans et ceux qui sont en CDD ou en intérim qui sont les premiers concernés. C'est sûr que ce n'est pas les populations les plus employables et les plus préservés. On va marquer une pause. On va évoquer la France et l'Allemagne. Emmanuel Macron se rend en Allemagne. Alors, il y a plein de sujets. Déjà, quelle doit être la doctrine européenne face aux concurrences objectives qui nous viennent des autres grandes puissances du monde. L'histoire de l'union des marchés de capitaux. On pourra en parler, Camille Landel. Les fusions bancaires transfrontalières, sujet qui est né de l'interview d'Emmanuel Macron lors de Choose France chez Bloomberg. Bon, il a pris ses distances en disant qu'il n'avait pas voulu citer Société Générale, que c'était un cas comme un autre. Voilà, un exemple, un cas générique. Et voilà. Et puis Ursula von der Leyen, je vous le rappelle, a indiqué cette semaine qu'il y aurait bel et bien des droits de douane plus élevés que sur les voitures électriques chinoises si les enquêtes européennes confirment qu'il y a des aides publiques en Chine illégales. Et la Commission se prononcera le 5 juin. À tout de suite.
Est-ce la bonne décision? Quelque chose. Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Camille Landais, président du Conseil d'analyse économique. Ludovic Subran, chef économiste d'Allianz. Jean-Marc Vittori, éditorialiste au Zeku. Emmanuel Macron en Allemagne à compter de dimanche. Il va rencontrer Olaf Scholz. Alors on va parler de plein de choses. Union des marchés de capitaux. Comment on fait évoluer éventuellement les missions de la BCE. C'est une idée répétée par Emmanuel Macron hier sur CNBC. Faut-il, comme aux États-Unis, à côté de la stabilité des prix, mettre la croissance, mettre l'emploi et même la décarbonation, dit Emmanuel Macron. Faut-il fusionner des banques entre différents pays d'Europe? Comment on fait l'union des marchés de capitaux qui est présentée depuis... On n'en parlait jamais, l'union des marchés de capitaux. On parlait de l'union bancaire qui a mis des années et des années à être à peu près avancée, presque terminée. Et là, c'est l'union des marchés de capitaux qui nous est présentée comme le nouveau Graal absolu. Ça va être l'arme de guerre de l'Europe pour enfin réussir à financer les grandes transitions et à exister face aux autres grands ensembles, Chine, États-Unis. Vous êtes souvent en Allemagne, vous?
J'y vais dimanche.
Voilà, Ludovic Subran, vous croyez que le président français, le chancelier allemand... pour réussir à nous sortir de leur chapeau des merveilles.
En tous les cas, je pense que ce qui est à l'agenda, c'est en plus des sujets financiers, c'est le sujet énergie. On a vu ce que la Commission se félicite d'avoir fait, c'est-à-dire la réforme du marché d'électricité, qui est quand même une réforme à petit pied. Enfin, ça ne résout pas nos problèmes.
Hein. Elle est hyper complexe à expliquer.
Au final, enfin, il y a une situation d'urgence, ça c'est pas mal, c'est un peu la position espagnole, et il y a cette idée que on a une, moi j'appelle ça l'union de l'efficacité énergétique. Je trouve que c'est pas mal qu'on veuille continuer de converger, parce que je vous rappelle qu'il y a pas mal de positions patronales, notamment en France et en Allemagne, qui disent bah éclatons le marché, comme ça ça nous donne un regard de compétitivité. Donc je pense qu'ils vont parler énergie, parce que l'un et l'autre des pays a quand même des besoins d'investissement majeurs, des sujets très forts d'interconnexion. Donc je pense qu'ils vont parler de ça. J'espère qu'ils vont parler un petit peu de fiscalité, puisqu'on en a parlé, hein, de politique budgétaire.
La convergence budgétaire de
on est dans, encore une fois, on est dans le moment de la réforme des règles budgétaires européennes. On est dans un moment hyper clé pour comprendre la politique budgétaire d'ensemble dans la BCE, dans l'Union européenne, pardon. C'est-à-dire que qu'est-ce que fait chaque État ? On a quand même une absence de complémentarité des politiques industrielles. On a des rythmes de dépenses publiques très différents. Les Allemands, je vous rappelle, ont 0,35% de déficit structurel dans leur constitution. Et donc, c'est quand même un gros sujet sur combien on veut financer au niveau des États, combien on veut donner à la Commission. Est-ce qu'on veut faire des eurobonds de la défense ? Donc, ils vont quand même parler fiscalité, budget, hein, au sens...
Si je vous suis bien, ça veut dire sortir de l'idée que le budget de l'Europe, c'est 1% du PIB européen et pas plus ?
Ben, en tous les cas, ça, c'est la repenser là, le budget serait... de l'Europe. Cette Commission s'arrête. Le budget de cohésion, pas dépensé. Le truc qui finance, Donc, est-ce qu'on veut réutiliser ça pour, par exemple, faire du climat ? Je ne sais pas, une idée un peu bête, mais qui pourrait peut-être marcher. Ben non, parce que les maires et les présidents de collectivités locales, ils ne seraient pas très contents. Oui, mais on a quand même un sujet, c'est qu'il faut qu'on fasse sortir de l'argent des tuyaux européens si on veut financer notamment les interconnexions, ou je ne sais pas moi, les 9000 kilomètres de tuyaux pour l'hydrogène en Allemagne. Donc moi, je pense qu'il va y avoir un sujet énergétique, un sujet budgétaire et peut-être en effet un sujet financier. Mais je pense qu'il est troisième dans leur liste d'intérêts. Bon. Parce que le sujet énergétique, je suis désolé, mais on a 60% de plus de prix d'électricité que nos camarades américains et nos camarades chinois, et oui, ça nous met dans l'ornière.
Les Français sont ulcérés par ça. Ils considèrent que eux, ils ont une électricité hyper compétitive.
Ce qui n'est pas vrai. En fait, ils l'ont payé. On parlait des impôts. Enfin, Areva, je vous rappelle qu'il y a encore 5 ans, on recapitalise Areva, ça nous a coûté plus 9 milliards.
Oui, mais aujourd'hui, sur le parc actuel de centrales nucléaires,
ça ne se regarde pas comme ça. Si on regarde tout aujourd'hui, la contrainte budgétaire sur l'énergie, elle n'est pas la même en Allemagne et en France. Oui, c'est d'accord.
Je sais bien que
On va démanteler des centrales.
L'opinion a tendance à regarder comme ça.
Oui, non, mais, d'ailleurs, le politique est là pour ça. Oui. Le politique est là pour ça. Pour aider l'opinion à faire des arbitrages intertemporels quand ils ne peuvent pas le faire, parce que c'est la tragédie des horizons.
J'ai écouté Jordan Bardella hier face à Gabriel Attal. Il était exact. Il reprenait exactement le ressenti.
Vous avez compris ce qu'il disait. Moi, je n'ai pas compris ce qu'il disait, mais c'est bien.
J'ai bien senti qu'il reprenait le ressenti de l'opinion publique sur le prix de l'électricité.
Ça s'appelle du populisme.
Ouais. Oui, parce qu'automatiquement, c'était la facture tous les mois.
Ouais. Non, mais il a raison. Mais
il a raison.
La tragédie
des horizons. C'est
la fin du mois, la fin du mois. Sur ces sujets-là, j'espère que, encore une fois, la rencontre franco-allemande, comme on ne se parle pas assez, j'espère que ça sera l'occasion de parler de ces sujets. Donc, énergie, budget, et en effet, compléter ou renforcer notre union financière pour éviter que notre épargne se barre aux États-Unis pour investir dans les magnifiques 7.
Camille Landais, l'Union des marchés de capitaux, vous me disiez, le Conseil d'analyse économique réfléchit à ce sujet. Ça nous est présenté depuis un mois et demi, comme quelque chose... Il y a une espèce d'accélération autour de l'UMC. Je pense qu'il y a des auditeurs, il y a un mois, ils ne savaient pas ce qu'on entendait par union des marchés de capitaux. Mmh. Et là, maintenant, waouh, vite, tout le monde doit y aller. Enrico Letta a mis ça en tête de gondole de sa note qu'il a rendue publique il y a quelques semaines. Mario Draghi fera la même chose, a priori, au mois de juin. C'est notre avenir.
Alors, oui, moi non plus, il y a un an, je ne savais pas du tout ce que c'était.
Ah, vous ne saviez pas ce que c'était.
Non, ce que je veux dire, c'est que... Alors, c'est intéressant, il y a une petite histoire, c'est-à-dire que, en fait, ça fait 15 ans qu'on en parle, il y a eu un grand moment il y a une dizaine d'années, et puis tout s'est un peu tassé.
C'était quoi le grand moment il y a 10 ans ?
Bah, en gros, pareil, la Commission poussait très fortement, il y avait une sorte de compromis politique derrière l'idée que, voilà, c'était la nouvelle frontière et tout ça, puis tout ça s'est un peu tassé, il y a eu le Covid et on n'en a plus parlé, et maintenant, ce sujet est remis sur la table. Alors, est-ce que c'est la nouvelle frontière ? Non. Néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas un petit sujet ? Oui. C'est-à-dire qu'il y a deux problèmes, je dirais, un peu fondamentaux. Le premier, c'est le manque de profondeur des marchés de capitaux en Europe, généralement. Hein, quand vous regardez notre système financier, quand vous le comparez par exemple aux États-Unis, notre système financier est très bancarisé. Oui. On a des très grandes banques. En gros, les banques représentent, prenez l'ensemble des actifs des banques, ça représente 150% du PIB, quelque chose comme ça, alors que c'est plutôt 65% du PIB aux US. Donc, il y a vraiment une différence. On est très, très bancarisé. Et ce système bancarisé, il est aussi peu intégré. Les banques sont très nationales. Et ça, ça crée aussi un petit sujet en termes de stabilité financière, ces fameuses doom loops, hein, le fait que comme vous investissez énormément dans des actifs locaux et en particulier dans vos bons du trésor locaux, eh ben, vous pouvez avoir vraiment ces cycles infernaux où vous avez à la fois la dette publique qui devient de moins en moins, qui a de moins en moins de valeur. Du coup, les actifs des banques se déprécient et tout ça. Et puis, vous rentrez un peu dans ce qu'on a vécu pendant les années 2000.
Ça peut être très pourri dans certains cas, on est bien d'accord.
Il y a un petit sujet, mais ce sujet aujourd'hui, il est surtout poussé pas tellement sous l'angle stabilité financière et plutôt de terminer l'union bancaire. Il est plutôt poussé sur l'aspect à essayons d'approfondir nos marchés de capitaux. Et derrière tout ça, c'est plutôt un enjeu de compétitivité.
Oui, mais c'est ça, c'est mobiliser des capacités de financement beaucoup plus importantes en Europe.
Mais c'est important de le faire. Pourquoi ? Parce que vous êtes à la frontière technologique, quand vous avez une économie développée, c'est plutôt les marchés de capitaux qui vont être très utiles pour financer l'investissement risqué dans les nouvelles technologies de rupture. Et donc, par exemple, le sous-développement de nos marchés de capitaux, là où il va peser énormément, c'est par exemple dans ce qu'on appelle le venture capital. Dans le capital risque. Là, c'est pas deux fois plus petit que les US qu'on est. Dans le late stage capital risque, c'est-à-dire celui qui est vraiment très important, quand vous avez des licornes, quoi, qui ont vraiment réussi et qui font un dernier tour de table, là, on est plutôt 14 fois plus petit que les US. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a un sujet, et je pense que c'est pas inutile qu'il soit mis sur la table aujourd'hui.
Si on écoute le président de la Société Générale, n'y comptez pas sur les fusions transfrontalières entre banques, ça coûte du blé, ça n'apporte que des soucis, ça n'a pas d'intérêt patent. Bon, je pense qu'il a objectivement aujourd'hui plutôt raison. Ça vous inspire une réaction, ce qu'on vient de se dire sur France-Allemagne, Europe, Jean-Marc ? Parce qu'il y a plein de sujets.
Sur la dimension financière, si vous regardez l'histoire européenne, on a à peu près réussi l'unification du marché des biens en Europe.
Oui.
On est loin d'avoir réussi l'union des marchés de services. Les professions réglementées, ça reste tout de même très très solidement national. Et sur la finance, on n'a pas fait grand-chose et ça dépend énormément des réglementations nationales.
C'est ça.
Sur les banques, l'assurance, la gestion d'actifs, tout ça, il y a des règles nationales qui sont extrêmement fortes et qui ne viennent pas du hasard et qui viennent de décennies, voire de siècles d'histoire financière. Si vous regardez le paysage bancaire allemand et le paysage bancaire français, par exemple, ils sont extrêmement différents. Ils sont extrêmement différents parce qu'il y a des réglementations, qu'il y a un jeu politique, qu'il y a aussi une dimension fédérale versus centralisée. On a des organisations qui sont très très différentes et donc c'est pas par hasard qu'on l'a pas fait et on se rend compte que dans le monde de demain ça va devenir de plus en plus important d'arriver à mobiliser des sommes importantes, d'arriver à avoir des logiques de financement européennes, que ça soit pour la transition énergétique et écologique ou pour l'univers start-up. La dernière étape du financement des licornes est évidemment un point absolument crucial que pour l'instant on n'arrive pas à résoudre dans des marchés qui sont extrêmement fragmentés. Et donc il faut avancer, mais pour avancer c'est même un travail dans chacun des pays qui est extrêmement lourd. Je voudrais rajouter un point à la liste de Ludovic Subran.
Énergie, budget, finance.
Moi, je pense qu'ils vont aussi parler bagnole, excusez-moi. Pas la dernière Tesla, mais je crains que ça devienne un point de plus en plus dur, notamment entre la France et l'Allemagne, sur la voiture électrique. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à la voiture électrique ? On voit bien que les États-Unis ont annoncé une mesure extrêmement forte, de taxation à 100%. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de produits aux États-Unis qui sont taxés à 100% sur la voiture électrique chinoise.
Je pense que ça doit être le seul. On passerait de 27,5 à 100.
C'est un symbole qui est extrêmement puissant. La voiture, l'industrie automobile, ça a été le symbole de la puissance industrielle américaine au XXe siècle. On a vu déjà avec le Japon que ça avait été très compliqué.
Et c'est un peu de la flûte, Jean-Marc, parce qu'il n'y a quasiment pas de voitures chinoises vendues sur le sol américain.
Vous avez tous vu les photos des milliers de voitures qui attendent sur les ports européens. Et ces voitures-là, les voitures électriques chinoises, ces voitures-là, elles ne vont pas être vendues aux États-Unis, elles vont être vendues en Europe. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait ? Vous évoquiez Ursula von der Leyen qui a annoncé un accroissement de la taxation sur les voitures électriques. Pour les Allemands, c'est un point absolument crucial, parce que derrière, il y a le risque de mesures de rétorsion de la Chine sur l'industrie automobile. l'industrie allemande, elle a deux points forts, c'est l'automobile et les biens d'équipement. Sur l'automobile, ce qui fait la profitabilité, ce qui a fait l'efficacité, ce qui a fait toute la croissance des constructeurs chinois, allemands, ces dernières années, c'est ce qui se fait en Chine. Et donc, la menace chinoise de mesures de rétorsion sur l'automobile est pour l'Allemagne quelque chose, pas d'existentiel, mais enfin quelque chose d'extrêmement puissant, sur lequel il y a un lobbying aussi intensif des constructeurs allemands qui savent très bien faire à Berlin. Et donc là, il y a un vrai, vrai point qui, pour moi, pourrait être un point d'achoppement majeur de l'Europe dans les mois à venir.
Il y a de très grandes chances. Alors après, le droit de douane en Europe, c'est 10%. Bon, si on passait de 10 à 20%, je ne pense pas que ce serait la hache de guerre déterré,
mais on va
faire plus, parce qu'il faut protéger le secteur de la bagnole en Allemagne et en France. Moi, je pense qu'on se dirige vers les quotas comme les voitures japonaises des années 90.
L'observation empirique nous dit que le protectionnisme par le droit de douane, c'est pas la bonne solution quand même. Donc,
Non, et puis surtout, c'est très coûteux. On est dans une période où on a déjà de l'inflation importée à 30% plus que les États-Unis à cause de nos dépendances, de nos vulnérabilités, etc. Moi, je pense que si. Alors, malheureusement, les Américains nous le disent depuis déjà un moment. Ils comprennent pas que BYD ou Cosme ont et pignon sur rue en Allemagne, quoi. Ils se disent, vous auriez dû faire comme nous. Mais je pense que nos impératifs de verdissement du transport routier font qu'on aura besoin d'une partie de la voiture chinoise parce qu'elle est plus efficace, moins coûteuse. Ils savent faire, donc il faut un transfert de technologie en fait à l'envers.
C'est ça. Et puis ils vont les construire en Hongrie, hein, BYD, les voitures.
Bien sûr, c'est ça le sujet, c'est qu'il y a.
Elles seront made in Europe.
En Hongrie, mais je vous rappelle qu'il y a quand même des pays qui sont dans la chaîne d'approvisionnement de la bagnole allemande, la Slovaquie par exemple, ou je sais pas moi, la Tchéquie, c'est des pays qui ont besoin d'un renouveau de leur secteur industriel pour des histoires d'emploi. Donc moi je pense qu'on va vers des quotas plus que. Mais ça va être un sujet, tu as raison. Enfin, tout ce qui est politique commerciale, parce que l'autre truc, on parlait du débat à Tal-Bardella, ça va être intéressant de voir aussi après que la nouvelle commission est en place. Moi je m'attends à ce qu'on recommence, parce que ça c'est vraiment une obsession de von der Leyen, qu'on recommence les accords libre-échange. Parce qu'elle se dit que là, c'est une période politique compliquée. Mais elle se dit qu'il faut diversifier. Hein. Je vous rappelle l'orthogonalité entre, ça va être ça, la discussion entre Scholz et Macron. Hein. Les Allemands sont mercantilistes et les Français sont souverainistes. Et donc, il faut trouver une forme de solution. Et von der Leyen dit, la solution, c'est diversification. OK, ça veut dire des accords libre-échange. Mais et donc, pour l'instant, l'acceptabilité par le public n'est pas hyper bonne.
J'ai suivi, c'est la partie du débat à Tal-Bardella que j'ai suivi avant d'aller me coucher, parce que ça s'est fini. Un peu tard, compte tenu de mes horaires, 3h30, le réveil. Là, sur les histoires de libre-échange, il avait raison, Attal, en disant Mercosur, c'est pas CETA. Et sur les chiffres qu'il livrait, je sais très très bien, par exemple, que le bœuf canadien n'a pas du tout inondé l'Europe, par exemple. Et il y a beaucoup, encore une fois, d'idées reçues et de certitudes installées sur les conséquences ultra-négatives de ces accords de libre-échange qui ne sont pas ultra-négatives dans tous les coups. On est d'accord.
Mais donc, c'est intéressant sur la voiture, parce que je pense qu'effectivement...
La voiture va être un
La voiture va être un très très gros sujet, et on connaît encore très très peu de choses sur l'économie industrielle de la filière électrique. Ma vision, elle est un tout petit peu différente de celle de Ludovic. Je ne pense pas nécessairement qu'on va être inondé par les voitures chinoises. Il faut voir d'où vient l'avantage comparatif des Chinois aujourd'hui. Il ne vient pas du fait qu'ils sont meilleurs sur l'assemblage des voitures, il vient de leur leadership sur les batteries, et même pas sur les batteries elles-mêmes, sur les composants de la batterie. Okay ? Le truc, c'est que ça reste ensuite toujours très très coûteux de transporter ces batteries ou de transporter des véhicules électriques. Okay ? Donc la question pour nous, c'est plus de savoir comment on réduit notre retard vis-à-vis des batteries, mais on est toujours très en avance en termes de l'assemblage, même l'assemblage de véhicules électriques. Okay ? Donc pour moi, la vraie question qui va se poser, c'est plutôt une question de politique industrielle vis-à-vis de la filière de la batterie, qu'une question de politique commerciale vis-à-vis des droits de douane qu'on met sur les véhicules électriques chinois.
Il y a même une question de calendrier.
Jean-Marc Vittori, viens dans le micro, Jean-Marc.
Si on veut résoudre cette question par la politique industrielle, ça va être à 10 ans. Et la question risque de se poser sur le marché automobile européen bien avant.
C'est vrai que ça va vite les batteries, ça va très très vite.
Me dit Jean-Marc, les mutations industrielles et les calendriers politiques ne sont pas toujours parfaitement alignés.
Ces élections
Carlos Tavares est le premier à avoir dit objectivement, votre date de 2035 pour l'arrêt des ventes de véhicules neufs thermiques, c'est une date politique qui ne correspond absolument pas à l'outil industriel.
Mais Nicolas, c'est justement pour ça que c'est quand même affligeant que le débat des élections européennes soit sur des sujets qui n'ont pas compétence européenne, alors que les sujets, les trois là dont on vient de parler à l'instant, sont des sujets sur lesquels les gens devraient voter. Parce que cette commission, elle est là pour 5 ans. Ça veut dire que c'est la moitié de la décennie un peu décisive sur les histoires de politique industrielle, de politique de verdissement, de politique commerciale, etc. Et on parle de sujets qui n'ont rien à voir avec la choucroute, oui, de protection sociale. Enfin, parce que juste après, oui. Attal et Bardella, vous aviez Manon Aubry, etc. Moi je veux bien, mais ouais, toi, tu t'es touché. Mais si tu veux, moi, ça m'inquiète vraiment, parce que les gens, j'espère qu'ils savent pourquoi ils vont voter le 9 juin, qu'ils vont aller voter, et qu'on leur mâche le travail.
Jean-Marc. Juste une petite anecdote là-dessus. J'ai animé le mois dernier un débat avec plusieurs têtes de liste. C'était à Angers. C'était un débat organisé par les Shifters, vous savez, le mouvement dans la mouvance de Jean-Marc Jancovici, et c'était un débat sur
Shift Project,
la transition environnementale, enfin au cœur de la campagne électorale européenne, parce que c'est un enjeu majeur, les décisions doivent être prises à l'échelon européen, etc. Donc il a été question de l'obligation de la voiture électrique, des modalités de financement, etc. Et il y a l'une des têtes de liste qui m'a dit, oh bah dis donc, qui c'est qui était déjà dans la campagne européenne la dernière fois, qui m'a dit, oh, c'est bizarre, c'est la première fois que j'ai un débat où on parle vraiment d'enjeux européens. Et voilà, et donc effectivement, dans cette campagne, on parle de beaucoup de choses, mais pas d'Europe.
Caroline Roux, hier, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès que ça devenait un peu technique, se disait, voilà, ça y est, c'est trop technique, je vais perdre, je vais vider ma salle. Alors vous imaginez s'ils avaient commencé à faire... Bon, alors, l'union du marché de capitaux. Et en termes budgétaires en Europe, qu'est-ce qu'on fait? Alors revenons sur le contexte de l'accord sur le marché énergétique, qui est juste imbitable. Ouais. Moi, je l'ai expliqué un jour à l'antenne.
Bravo.
J'ai déjà eu du mal, moi, à m'y retrouver.
Il le faut.
Mais tu vides la salle, tu ne fais pas voter les gens là-dessus. Donc évidemment, c'est beaucoup plus simple de leur dire on va mettre des droits de douane pour se protéger contre la méchante voiture électrique chinoise. Bon, on va parler de Total. L'idée de changer l'émission, d'élargir l'émission de la BCE, Ludovic Subran. Elle fait de la stabilité des prix. Tiens, si elle faisait de l'emploi et de la croissance comme la Fed.
Moi, c'est
l'idée d'Emmanuel Macron.
Je donne à Emmanuel Macron un vote de confiance dans le sens où c'est le seul à planter des sujets. Alors des fois, alors il fait des discours à la Sorbonne, etc. Mais je trouve que c'est grave.
Planter, le verbe peut avoir deux sens.
Oui, planter, ça a deux sens.
Et tu remarqueras, Jean-Marc, je donnais les deux sens à planter. Et donc, en effet, dans ce cas-ci, peut-être qu'il va aussi planter le sujet avant son déplacement en Allemagne, parce que forcément, les Allemands seront contre ça. Non, mais en tous les cas, c'est le seul je vais utiliser un mot différent, mais à proposer des choses. Voilà. Moi, je pense que ça peut pas du tout marcher. Encore une fois, j'étais en Espagne. Hier, 13% de chômage, en France 7%, en Allemagne 4%, oui. C'est-à-dire qu'on a des marchés tellement différents, on n'a pas vraiment d'intégration du marché du travail. Là, vous me direz, les États-Unis, c'est pas très intégré non plus, et y a plein de choses à faire, mais je trouve que cette idée de l'emploi, elle est secondaire pour nous. Sur la politique monétaire, je trouve que le vrai sujet aujourd'hui, c'est ces sujets de fragmentation. C'est-à-dire que nous, on a tellement de sujets, et là, la BCE est juste en train de s'approprier ce sujet de fragmentation, de défense de l'euro à tout prix, d'éviter 2012 encore. C'est-à-dire que on est déjà dans une deuxième.
Ça fait un petit bout de temps qu'elle s'approprie le sujet quand même.
Enfin, tout peut. C'est quand même très fragile. Hein. Enfin, encore une fois, c'était il y a 10 ans. Hein.
Oui.
Donc moi, je me dis, on est jeune encore, donc il y a encore ce sujet, à mon avis, de fragmentation qu'il faut vraiment travailler. Et ensuite, peut-être des sujets d'emploi. Mais c'est des sujets qui sont très compliqués à gérer en politique monétaire unique.
On s'est rendu compte de la Fed, par moment, quand on regardait le niveau des prix et quand on regardait l'emploi, c'était contradictoire. Et donc, il y a un moment, il fallait prendre une décision. Donc, les deux lièvres en même temps.
Ouais, et puis vous savez, c'est la partie emploi du mandat de la Fed, c'est la partie la plus gloubi-boulguesque, en fait. Moi, je me rappelle très bien Yellen, qui ne sait pas comment justifier que le marché de l'emploi est très bon, mais qu'elle ne peut pas augmenter les taux. Et elle commence à regarder les aspects redistributifs de l'emploi, notamment les emplois des minorités. Et donc on est dans des choses qui peuvent devenir, c'est de l'économie politique, mais je pense que la BCE, on a déjà un consensus mou. Je trouve que Lagarde fait un travail extraordinaire là-dessus. Ce n'est pas le moment de planter des sujets qui pourraient vraiment hérisser le poil de beaucoup de banquiers centraux qui ont des marchés de l'emploi.
De toute façon, les Allemands ne voudront pas. Donc, Camille,
oui, pas...
Non, mais voilà. Camille Landais, là-dessus.
Les Allemands ne voudront pas, ok. Mais ce que je veux dire, c'est qu'a priori, il n'y a aucune raison de ne pas poser la question du mandat de la BCE. Il faut la poser, il faudra la reposer dans le futur. Exactement. On parle d'emploi, on parle aussi peut-être de sujets sujets environnementaux. Bon, maintenant, la vraie question, c'est derrière tout ça, qu'est-ce qu'on a en tête? Ça veut dire quoi, le mandat de l'emploi? C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment en tête que à un niveau intégré européen, on aura une vraie politique de l'emploi qui nous permette de faire quoi? Bah, justement, d'éviter ces divergences avec le taux de chômage qui explose en Espagne ou ce genre de choses. Là-dessus, je dirais que quand même, on a des outils au niveau européen à essayer de mobiliser qui sont quand même beaucoup plus simples et sans doute beaucoup plus efficaces que ce que pourrait faire de manière indiscriminée la Banque Centrale Européenne. Ça serait en particulier compléter l'union bancaire. Okay hein, donc si vous mettez en place des mécanismes qui, à travers l'assurance des dépôts, ce genre de choses, évitent ces fameuses doom loops, là, les fameux cycles infernaux, tout ça, vous avez déjà une manière assez efficace d'utiliser votre union monétaire et bancaire pour éviter justement ces très très fortes divergences entre marché du travail. Donc voilà, la question c'est...
Vous faites vraiment un lien entre cette union bancaire et le marché du travail?
Bah oui, parce que qu'est-ce qui se passe quand
le chômage
d'un coup...
a explosé, c'était 2014.
Hein. Qu'est-ce qui se passe d'un coup, vous avez vos banques qui sont obligées d'arrêter de prêter aux entreprises qui du coup ne peuvent plus embaucher parce que voilà, elles ont leur balance sheet avec tous ces bons du trésor de leur pays qui s'effondrent.
Bon, enfin en tout cas je comprends pourquoi ces sujets très européens ne sont pas trop évoqués par les candidats. D'ailleurs je vous invite, si ça, j'ai trouvé ça assez passionnant l'exercice qui a été mené je crois mardi par les Échos, pages 12 et 13.
Oui.
Tous les candidats donnés sur un format réduit, un format article, hein, qu'on leur impose, heureusement que de temps en temps... Et ils donnaient leur vision du libre-échange européen par rapport aux concurrences chinoises et américaines. Peut-être que je le ferai la semaine prochaine. Ça prendra un peu de temps pour résumer la position des 6 ou 7 qui s'expriment.
Du coup, puisque tu donnes des conseils de lecture, sur l'UMC, sur l'Union des marchés de capitaux, j'encourage tout le monde à lire le rapport de Christian Noyer. Parce qu'on parle beaucoup du rapport l'État, du rapport Draghi, mais on a notre ancien gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, qui a fait un rapport sur l'Union des marchés de capitaux. C'est technique, mais je trouve que le résumé exécutif, et puis il y a des parties qui peuvent être très intéressantes pour ceux qui s'intéressent à ce sujet. Et c'est la position française aussi, sur le produit d'épargne pan-européen, etc., dont le ministre
Le Maire
parle.
Il y a un moment, il faut oser dire que peut-être qu'à au bout de l'histoire, il faut une harmonisation fiscale sur l'épargne.
Bien sûr. Voilà, bah moi, je pense que c'est d'ailleurs pour ça que le produit pan-européen, moi, je pense qu'il vaut mieux regarder ce qu'on fait localement, par exemple sur les retraites, et essayer de voir si on peut harmoniser davantage pour avoir plus de flux transfrontaliers sur ces sujets-là. Mais c'est sûr qu'on est en train de trouver des mécanismes pour faire marcher le bousin.
Si le sujet de la doctrine européenne face aux nouvelles concurrences du monde vous intéresse, je vous renvoie quand même au podcast. On a fait quasiment une émission spéciale de manière un petit peu empirique, improvisée. C'était lundi dernier. Il y avait Laurence Boone, Emmanuel Combes et Christian Parizeau. Je ne sais pas pourquoi on a parlé que de ça pendant une heure. Comme toujours, j'avais fait ma liste fleuve, hein, comme d'habitude, et puis finalement, on n'a fait qu'un sujet. Le psychodrame total, Jean-Marc Vittori. Alors là, c'est dans le Figaro aujourd'hui. Je vais bien aller à Wall Street, dit-il, sous forme d'action et pas de certificat de dépôt, mais je vais rester à Paris, en action aussi. Il y a un psychodrame total.
Oui, il y a un psychodrame total. Il y a un patron qui est à la fois brillant et provocateur, hein, qui s'appelle Patrick Pouyanné. Il y a une tradition française compliquée sur le pétrole, où on a eu une entreprise, enfin Total est à moitié formée d'une ancienne entreprise nationale. Donc, même si c'était il y a très longtemps, il y a encore des réflexes qui ressortent. Non, moi, au-delà de la polémique du moment, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est la réaction qu'on a en France face à Total. Donc, il y a le côté, la méfiance face à la grande entreprise, mais face à la grande entreprise aussi qui est considérée comme sale. Et c'est très important dans les ressorts qui animent actuellement la direction de Total. C'est qu'on considère en France que Total est une entreprise sale. Et il y a un débat, d'ailleurs c'est un débat pour les investisseurs, je trouve très intéressant, qu'est-ce qu'une entreprise sale et une entreprise qui n'est pas sale. La façon la plus simple de le définir, c'est de dire le pétrole, le charbon, tout ça c'est sale, et le social par exemple c'est propre. Et donc vous avez, dans le social, vous avez Orpea. Orpea, c'est une entreprise propre, hein, puisque c'est une maison de retraite, elle prend soin de la mère, de la grand-mère, et donc tout ça, c'est très bien. Et Total, ça fait du pétrole, c'est très sale. Et donc, on investit sur Orpea, on n'investit pas sur Total. Seulement, Orpea, on a découvert que la façon dont Orpea s'occupait des personnes âgées était assez sale.
On a très peu de temps.
Et Total, quand vous comparer Total, non pas sur l'ensemble des activités économiques, mais dans le secteur de l'énergie, dans le secteur du pétrole, c'est la majeure, ou peut-être l'une des deux ou trois majeures mondiales, qui fait le plus d'efforts pour aller vers des énergies moins sales. Et donc, si les investisseurs ils achètent du Orpea et qu'ils n'achètent pas de Total, ok, mais on va avoir un vrai problème. Et si on dit, ok, Total ne fait pas de choses sales, qui c'est qui va faire ? On ne va pas arrêter pour autant de consommer du pétrole sale.
C'est un peu le problème. Ouais.
Et donc, ce pétrole, il va venir d'ailleurs. Il va venir des Américains, il va venir des autres compagnies. Et donc, l'argent, il n'ira pas en France, il ira ailleurs. Donc, et je pense qu'on a vraiment une réflexion de fond à mener collectivement sur ce qui est sale et ce qui ne l'est pas.
Merci Jean-Marc Vittori. C'est vrai que il y a cette espèce de ressenti immédiat, presque intuitif, l'entreprise qu'on adore détester. Et pourtant, tout le monde veut du pétrole bon marché, enfin du carburant bon marché en allant à la pompe. Toujours le même sujet. Oui, ils mettent 4 à 5 milliards d'euros par an dans la transition verte, dans les énergies renouvelables.
Et leur principal problème là-dessus, c'est qu'ils ont du mal à trouver.
Ouais, et Patrick Pouyanet dit, on a l'impression, enfin, je sais pas, je fais ça, mais on a l'impression que personne ne le voit, quoi. Bon, merci d'avoir été là pour évoquer tous ces sujets. Camille Landais, Ludovic Subran, Jean-Marc Vittori, on se retrouve lundi à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.